Bonsoir. Le chef de l'État a prononcé ce lundi son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Concernant le processus électoral, Joseph Kabila affirme notamment que les élections auront lieu comme prévu, conformément au calendrier de la CENI. À cet effet, il invite le Parlement à doter la CENI de lois relatives et le gouvernement de lui octroyer les moyens nécessaires. Quelle lecture faire de cette déclaration du chef de l'État? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 15 décembre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Didier Molichaud, député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Monsieur Molichaud, bonsoir.
Bonsoir.
Franck Diongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP en sigle. Monsieur Diongo, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir les auditeurs et auditrices.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maître Magloire Balouti à Lubumbashi au Katanga. À mon avis, ce discours n'a pas répondu aux attentes de la population qui attendait que le chef de l'État se prononce par rapport à son mandat, ce qu'il n'a pas fait. Le passage sur la fierté nationale a rencontré mon assentiment, mais la froideur de l'assistance a démontré la déception des parlementaires. Célestin Yangui-Edouard, le calendrier de la CENI est encore flou jusque-là. Nous n'avons pas besoin d'un calendrier qui va au-delà du mandat que nous avons donné au président. Merci de nous suivre, partenaire DC, sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dans son discours sur l'état de la nation prononcé ce lundi 15 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État congolais a annoncé que toutes les élections prévues par les lois de la République seront organisées conformément aux dispositions qui seront prises par la commission électorale. Cette déclaration intervient alors qu'un débat agite depuis plusieurs mois la classe politique congolaise sur la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives, notamment prévu en 2016. On écoute cet extrait de Joseph Kabila sur cette question que nous propose Alain Irung.
Toutes les élections prévues par les lois de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. Ensuite, qu'il est du devoir de l'Assemblée nationale et du Sénat de doter la CENI de lois dont elle a besoin pour mieux programmer les différentes échéances électorales. J'invite pour sa part le gouvernement à mobiliser et à mettre à la disposition de la CENI les ressources nécessaires pour la bonne organisation des élections. Je les exhorte tout autant à appuyer comme il sied l'Office national d'identification de la population, les résultats du travail de ce service public étant nécessaires pour la bonne fin du processus électoral. Cela dit, comment clore ce chapitre sans évoquer l'effervescence qui, depuis un peu plus d'un an, agite une partie aussi bien de la classe politique congolaise que de la communauté internationale à propos du processus électoral. Aux acteurs politiques congolais, de quelque bord qu'ils soient, l'on peut contester le moment choisi ou les arguments développés. Mais non leur droit de susciter ou d'entretenir le débat sur les questions d'intérêt national. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'auto-invitation dans ce débat de personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles.
C'était là Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Alors, on va commencer par analyser d'abord brièvement, de façon générale, le discours du président Joseph Kabila. Didier Molisso, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Comment vous avez analysé ce discours de Joseph Kabila?
Merci madame pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur le discours du chef de l'État, sur l'état de la nation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que le chef de l'État, comme à l'accoutumée, s'est soumis à l'exigence constitutionnelle de donner l'état de la nation congolaise une fois par an. Et de la même façon qu'il a fait les années précédentes, cette année, le chef de l'État s'est soumis à cet exercice. Il a passé toute la situation de l'État congolais.
Aussi un bien discours convaincant?
Le problème n'est pas un discours convaincant ou pas. Le chef de l'État a fait l'état de la nation congolaise en parcourant tous les secteurs de la vie nationale. De ce point de vue-là, pour moi, je trouve que...
Vous êtes satisfait?
Je suis satisfait.
Merci Didier Molisso, Franck Dongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbis Progressiste. Un mot sur ce discours de chef de l'État sur l'état de la nation.
Je commencerai par saluer le docteur Molisso, qui est le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Ma réponse est la suivante. Le discours du président de la République est un espoir déçu, un rideau de fumée, un catalogue de bonnes intentions, un discours déconnecté de réalité, un discours qui n'a pas mené de réponse aux problèmes auxquels les Congolais attendent. Donc, un discours qui n'a pas répondu aux attentes des Congolais. C'est un discours, en fait, qui rassure les extrémistes de la majorité présidentielle pour leur dire « Monsieur, je ne changerai plus la Constitution, mais avec l'ONIM, je vais aller au glissement, je vais aller au-delà de son mandat. » Alors que les Congolais attendaient un engagement de la part de M. Kabila, va-t-il prolonger ou pas son mandat après expiration de son terme en 2016. C'est la question fondamentale.
Alors, on va y revenir, Franck Dongo. On note que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content du discours du chef de l'État. Vous étiez présent.
C'est un espoir déçu, présent. Madame. C'est un espoir déçu.
Vous étiez au Congrès?
Madame, que je sois au Congrès ou pas, j'avais suivi les discours du président Kabila.
Merci Franck Diongo, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Quelle est votre lecture, de façon générale, du discours du président de la République sur l'état de la nation?
Merci beaucoup madame pour cette question. Et donc grosso modo, ce qu'il faut bien se rendre compte en suivant de manière attentive donc ce discours, il ressort plusieurs choses, hein, mais je vais essayer de me restreindre uniquement sur les questions des élections ainsi que sur les questions des modifications.
On va aller de façon générale, professeur, d'abord, et puis on va revenir sur les questions qui concernent les élections.
De façon générale, ce que l'on peut dire, c'est que le discours, bien sûr, comme tous les discours à la nation, comporte de partie, et en fait c'est une espèce d'état de lieu de la situation et avec une projection de ce qui pourrait être fait et l'année suivante. Et la question aussi c'est de se dire, ben oui, ce qui a été fait, mais ce qui manquait peut-être dans le discours, c'est une évaluation en fait de ce qui a déjà été fait, une évaluation beaucoup plus précise, beaucoup plus pertinente, notamment sur les questions sociales, c'est-à-dire les questions sociales, les salaires des fonctionnaires, les salaires des professeurs, les salaires des enseignants, etc., etc., où je pensais qu'il allait quand même y avoir une dimension beaucoup plus sociale sur le discours, parce que lorsque l'on lit, on entend et on voit un peu ce qui se passe au niveau de la RDC, on se rend bien compte que bien qu'on parle de chiffres macroéconomiques qui sont très intéressants, mais il n'y a pas encore de répercussions au niveau de la population. La population ne voit pas encore les dividendes de toute cette croissance. Et merci. J'aurais bien souhaité que ce soit plus, ce discours soit axé sur cette dimension-là, plutôt que d'arriver à avoir une espèce d'état des lieux et avec une projection où il n'y a pas vraiment la dimension sociale.
Merci, professeur Bob Kabamba. Revenons sur l'aspect qui fait l'objet de notre débat ce soir. C'est celui du processus électoral. électorale. Dans son discours, le président Joseph Kabila a déclaré que les élections auront lieu comme prévu, conformément au calendrier des décennies. Comment on peut comprendre cette phrase, docteur Molichour?
Avant d'aborder la question, moi j'aimerais dire un mot sur les discours sur l'état de la nation. Je pense que ce que le professeur Kabamba vient de dire tout à l'heure, c'est ce que le chef de l'État lui-même a dit quand il a dit nous avons stabilisé les cadres macroéconomiques, maintenant nous devons aller vers la rencontre de préoccupations de la population. Donc de ce point de vue-là, je pense que le président de la République lui-même l'a annoncé. Je crois que ce que le président de la République a dit concernant les élections, il n'a fait que dire aux gens ce qu'il doit se faire. Parce qu'il y a un organe...
Il a juste rappelé.
Oui, c'est juste rappeler aux gens que les élections auront lieu parce que le processus électoral est en marche et que l'organisation des élections revient à la CENI. Le Parlement doit mettre à la disposition de la CENI un cadre légal et le gouvernement des moyens. C'est tout ce que le président de la République a rappelé en insistant sur le fait que toutes les élections seront organisées.
Quand ?
Et en laissant à la CENI de proposer le calendrier parce que c'est le rôle de la CENI.
La CENI présente un calendrier qui présente des élections qui vont au-delà de 2016.
Oui, mais madame, vous savez, le discours du président de la République a été beaucoup plus complet. Il a dit que ce pays a la tradition du dialogue. Les élections, c'est pour amener la paix au niveau du pays. Et le président de la République est préoccupé par la paix. Préoccupé par la paix, comme garant de la nation, il ne peut pas rester indifférent à une CENI qui proposerait un calendrier qui va au-delà de 2016 comme ça. Le président va intervenir, il va inviter la classe politique au dialogue.
C'est ce qui est prévu donc.
Je ne dis pas que c'est ce qui est prévu, c'est la question que vous m'avez posée. Vous m'avez posé la question, si la CENI proposait un calendrier qui va au-delà de 2016, quelle serait la réaction? Moi, je vous dis, le président de la République, comme garant de la nation, va réagir. Et sa réaction va aller dans le sens d'amener les dialogues. Parce que si la CENI propose un calendrier qui va au-delà de 2016... Il faut que la CENI justifie pourquoi il va au-delà de 2016. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en décembre 2014.
Alors, il a demandé au Parlement de doter la CENI des lois relatives. Ça veut dire qu'au niveau du Parlement, vous traînez avec ces lois qui doivent permettre à la CENI de pouvoir présenter son calendrier.
Je suis heureux de participer à cette émission avec le collègue honorable Frank Diongo. Il le sait. Au niveau du Parlement, quel est l'état de la question ? Depuis 2012, il y a un collègue qui a introduit une proposition de loi portant modification de la loi électorale. Mais nous sommes à la fin de 2014, les collègues retirent sa proposition de loi. Maintenant, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de...
Mais depuis 2012, cette proposition de loi n'avait pas été soumise au débat. Pourquoi on a attendu 2014, à la fin de la session pour...
Et au niveau du Parlement, conscient du fait que le Parlement doit mettre à disposition de la CENI un cadre légal, on a convoqué une session extraordinaire qui va entrer avec comme matière la loi électorale. C'est pour vous dire qu'au niveau du Parlement, en tout cas, le souci est là de doter la CENI d'un cadre légal pour lui permettre de proposer au pays un calendrier qui soit conforme avec les textes qui régissent la République.
Et qu'en est-il du projet de loi proposé par le gouvernement?
Le projet de loi proposé par le gouvernement est postérieur à la proposition de loi qui a été proposée par les collègues Sessanga. Et au niveau du bureau de l'Assemblée, on a estimé qu'on pouvait soumettre au débat de la plénière la proposition de loi proposée par les collègues Sessanga. Et je crois que le sujet avait avancé dans ce sens-là. Maintenant que le collègue Sessanga a retiré sa proposition de loi, on va demander au gouvernement de venir avec un projet de loi pendant la session extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas laisser la République sans avoir un cadre légal pour organiser les élections dans le cadre constitutionnel.
Merci, docteur Molichour. Franck Diongo, quel est votre point de vue ou votre analyse sur les discours, l'extrait du chef de l'État concernant les élections? Il dit qu'ils seront, selon lui, auront lieu comme prévu, conformément au calendrier de la CENI.
Premier élément, madame, avant de revenir sur la question électorale, il faut une mise au point. Il est clair que le discours du président de la République, c'est un discours sans calendrier, sans délai, sans chiffres, sans chronogramme. Il n'y a rien de précis, aucune quantification. De deux, c'est un discours aux accents nombrilistes et faussement souverainistes. Vous allez voir que c'est un discours en fait du fin de règne où les présidents s'attaquent à la MONUSCO, aux Nations Unies, à tous les pays qui nous ont aidés. C'est un discours de fin de règne. Chaque président de la République, quand il est en terme de son pouvoir, ou quand il est abandonné, il s'attaque aux étrangers.
Alors, on revient sur la question
deux élections. Pas seulement qu'il a oublié toutes les questions liées au social, mais dans la question des élections, je crois que vous avez vu comment le docteur Moulish, avec qui j'ai beaucoup de respect, a été embarrassé. Parce qu'en fait, les projets qui émanaient du gouvernement portaient sur la révision de la Constitution, que ce soit l'article 197 ou l'article 220, face à la pression du monde et de l'opinion populaire, parce que les Congolais ont rejeté la révision de la Constitution. Ils ont eu peur du feu. C'est comme ça qu'ils ont abandonné la révision de la Constitution pour aller au glissement, c'est-à-dire attendons les élections. Donc, organisons les élections après le résultat du recensement. Alors que le recensement coûte au minimum 140 millions de dollars et ça ne peut pas aller avant 3 ans. Donc, le recensement va prolonger les mandats de M. Kabila au-delà des 3-4 ans. Donc, chose que les Congolais n'accepteront jamais.
Et donc, vous estimez qu'on n'a pas besoin du recensement avant les élections de 2016 ?
Madame, au niveau du recensement, quel est l'impact, l'importance du recensement dans un processus électoral ? Un seul élément. Le recensement peut aider tout simplement au partage des sièges. C'est pour dire, il y a un principe en droit électoral, le principe de la représentativité, l'équité dans la représentativité. C'est-à-dire, là où il y a beaucoup plus de population, il faut qu'ils aient beaucoup plus d'élus. Au-delà de cela, vous pouvez avoir 80 millions recensés pour avoir 20 millions d'électeurs. Donc, la liste électorale, le registre électoral n'est pas lié, madame la journaliste, au nombre des Congolais recensés. En fait, ici, c'est un discours qui manque de sincérité. Je ne pense pas que le docteur Moulish lui-même croit. Je ne pense pas que le président Kabila croit à son discours. En fait, c'est un discours insultant aux Congolais et à l'opinion publique. C'est ça qu'il faudra retenir. Le processus électoral en
soi... Je vais vous donner la parole, docteur.
Le processus électoral en soi, aujourd'hui, il est quand même insensé de dire aux Congolais que nous allons organiser des élections en respectant les calendriers, alors que le calendrier global n'est pas encore présenté. Comment pas avoir un calendrier alors qu'on n'a pas encore de loi, madame? Et pourrez-vous comprendre cela?
Mais c'est sans vous loi, qui faites traîner les lois au
Parlement. Mais il est là le chef de la majorité, il est là le docteur Moulichou. Il est le chef de la majorité,
vous
il est là.
Député national.
Vous comprenez? Donc, on ne peut pas blaguer avec l'avenir de tout un pays et tout un peuple. Je crois qu'il ne faut pas pousser les Congolais à agir. Même lorsque le président de la République a dit que les Congolais ne sont pas comme tout le monde. Non. C'est-à-dire, les Congolais ne méritent pas la démocratie, ils ne méritent pas le respect des droits de l'homme, ils ne méritent pas le respect du cycle électoral. C'est alors que le président n'a pas évoqué les questions ni de corruption, merci, ni de violation des droits de l'homme.
Merci Franck Dzongo. Juste un mot
pour dire que je vois vraiment que le collègue Franck Dzongo n'a pas suivi les discours du président. S'il avait bien suivi, le président a dit quelque part... La propension à contester à temps et à contre-temps, y compris ce que soi-même on défendait hier. L'opposition, c'était son credo. Mais il fallait le recensement. Aujourd'hui, l'opposition commence à contester ce qu'il défendait
merci,
hier.
Merci, docteur. Je vous redonne la
stratégie
parole.
De procès d'intention.
Je vous redonne la parole tout à l'heure, docteur. Merci, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Quelle est votre lecture de cette déclaration du chef de l'État?
Merci beaucoup pour la parole. Madame, donc ici, il faut quand même bien se rendre compte et remettre un peu l'église au milieu du village. Hein. Lorsque l'on parle que l'ONIP, la mise en place de l'ONIP va retarder le calendrier électoral, je ne pense pas. C'est-à-dire, pour bien comprendre, il faut que les auditeurs comprennent bien ce que ça veut dire un recensement. Un recensement, de l'identification de la population, ça veut dire que l'on va escompter les habitants de la RDC à partir de la 7e année jusqu'à X années. Donc, de manière très claire, lorsque l'on dit que l'identification peut prendre 2, 3 ans, 4 ans, tout dépend en fait de des moyens qui seront mis à disposition de l'ONIP et tout dépend aussi de la volonté politique. Je m'explique, c'est-à-dire que si l'on veut identifier les 70 millions de Congolais, s'il faut, comme l'a dit le directeur général de l'ONIP, il lui faut 40 000 personnes pour arriver à identifier les 70 millions de Congolais. Alors, au lieu d'avoir 40 000, il suffit simplement de mettre 40 000 en plus, ce qui ferait 80 000 personnes. Et les 80 000 personnes, le travail qui doit être fait en 2 ans, avec 40 000 personnes, peut être fait en moins de temps, avec plus de gens et avec plus de moyens. Donc, il est de penser que l'ONIP va favoriser le glissement, je ne pense pas. Il suffit qu'il y ait les moyens qui soient donnés à l'ONIP, et pour lui donner avec un calendrier clair, de dire que en X temps, il faut arriver à identifier tous les Congolais, c'est faisable, c'est possible de pouvoir arriver à faire le travail et si on donne les moyens, ça c'est une chose.
Est-ce que c'est opportun, oui, professeur, de faire ce recensement en ce moment? C'est vraiment nécessaire, c'est opportun?
Bah, parce que la loi l'exige, madame. La loi sur la mise en place de la CENI exige que les prochaines élections doivent se faire sur base d'un fichier électoral, le fichier électoral qui doit être fondé sur les données démographiques. Vous savez très bien le débat qu'il y a eu depuis plusieurs années sur la question de la répartition des sièges au Parlement, où on reproche à la CENI de ne pas tenir compte véritablement du poids démographique des habitants pour pouvoir arriver à une répartition équitable de sièges au Parlement, aussi bien au Parlement qu'au niveau province et au niveau local. Et comme la loi l'exige, de mon point de vue, c'est important de pouvoir faire cette identification. Et il faut vraiment le dire de manière haut et fort, de manière claire. Si on veut que l'identification se passe dans les délais constitutionnels, c'est tout à fait faisable. Il suffit de donner à l'ONIP les moyens qu'il faut, c'est-à-dire s'il faut une personne pour faire le travail, alors il faut mettre 2, 3 personnes en plus pour faire le même travail et on raccourcit le délai d'identification. Et donc, de plus, l'utilisation des moyens qui sont mis à disposition de l'ONIP, c'est-à-dire des moyens quand même modernes, ce n'est pas une identification manuelle, c'est une identification électronique avec des bases de données et avec l'usage de serveurs, etc., etc., qui permettent de pouvoir gagner beaucoup plus de temps et de pouvoir arriver à avoir un fichier fiable. Donc, de mon point de vue,
mais là, il faut commencer d'abord par former toutes ces personnes-là qui seront recrutées par l'ONIP pour procéder à l'identification.
Madame, c'est la même chose. Former, ça veut dire que si on veut fermer 40 000 personnes, il faut 10 000 personnes pour fermer 40 000 personnes. Il suffit de multiplier le nombre de formateurs et on gagne. Ça veut dire que simplement, il faut bien comprendre, madame, que il faut X temps pour identifier 70 millions de personnes. Il faut X personnes pour identifier X millions de personnes. Et donc, si on veut raccourcir le délai, vous ajoutez le nombre de personnes qui doivent faire le même travail, en ajoutant le nombre de personnes, vous allez faire le même travail dans un délai beaucoup plus court.
Merci.
C'est tout à fait faisable, ça a déjà été fait dans plusieurs pays, et ça a été prouvé dans plusieurs pays que pour raccourcir, il suffit simplement de pouvoir augmenter, et on peut tenir le délai constitutionnel sans aucun problème.
Merci professeur Bob Kabamba. Je veux vous donner la parole, Franck Diongo, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse du professeur, mais avant cela, on va prendre pour vous, docteur Molicho, cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Jimmy Faliana, depuis Goma, dans la province du Nord Kivu. Je pense que le chef de l'État est resté égal à lui-même. L'organisation des élections telles que prévues par les lois de la République, c'est ça la volonté constitutionnelle. Par contre, on s'attendait à ce qu'il puisse éclairer la lanterne sur les 2 questions qui font couler l'encre et les salives dans les débats au sein de la classe politique. Notamment, est-ce qu'il sera candidat aux élections présidentielles prochaines? Est-ce que les élections seront organisées dans les délais prévus par la Constitution?
Réaction, docteur Molicho.
Merci beaucoup. Je crois que notre compatriote de Goma devait comprendre une chose, c'est que le président de la République, dans sa fonction de garant de la nation des lois de la République, il a rappelé que toutes les élections seront organisées. Il a rappelé qu'il y a un organe qui est chargé des élections. Ce n'est pas sa responsabilité de donner le calendrier des élections. C'est à la CENI de donner le calendrier des élections. Bon, les compatriotes posent la question...
Par rapport à sa candidature en 2016, c'est le débat actuellement. Hein. Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il y aura... On va réviser la Constitution?
Oui, mais le collègue Franck Diongo l'a dit tout à l'heure. Il a dit, oui, comme la majorité est coincée et ne va pas réviser la Constitution, donc si le Franck Diongo est dans le secret de la majorité, la réponse est claire qu'il n'y aura pas de révision de Constitution. Et s'il n'y a pas de révision de Constitution, la chose est claire. Je crois qu'au niveau de la majorité, nous ne faisons pas des procès d'intention, nous ne faisons pas des cabales. Et c'est ça le problème au niveau de notre pays. Le président de la République s'est prononcé sur l'état de la nation. Mais les gens veulent que le président de la République se prononce sur son mandat. C'est pas ça qui est existentiel pour la population. Et le président de la République,
c'est pas important.
Le président de la République l'a dit lui-même. Les préoccupations de la population sont énormes. Au début de cette émission, le professeur Kabamba qui intervenait voulait que le président de la République aille dans le détail sur le social. C'est ça que la population attend, les détails sur le social. La population sait que la Constitution de la République limite les mandats du chef de l'État. Pour ça, le président de la République n'a pas à répéter ça. Chaque fois qu'il prend la parole devant le Congrès pour dire la Constitution dit ceci, la Constitution dit cela.
Alors, non. On va prendre des autres réactions. C'est Higgen Junior qui dit ceci, le discours du président Kabila sur l'état de la nation devant le Congrès, ce lundi 15 décembre, a été un vrai rendez-vous manqué. Il a évoqué plusieurs sujets et dit beaucoup de choses, sauf que l'opinion nationale attendait sa position par rapport à 2016 pour décrisper la tension politique actuelle, Maître Magloire de Lubumbashi, Maître Magloire Balouti de Lubumbashi. Il revient aussi sur la même question, c'est du ce qu'on n'a pas répondu aux attentes de la population qui attendait que le chef de l'État se prononce par rapport à son mandat. Voilà que la question, tout ce que les gens attendaient, c'est que le président dise s'il sera candidat ou pas. Vous avez répondu à la question, Dr. Blichot. Pas besoin de répéter. Donc on retient qu'en 2016, il va respecter la Constitution, il ne va pas se représenter.
Le président de la République l'a toujours dit qu'il respectera la Constitution et il va respecter la Constitution.
Merci, docteur Molichot. Franck Diongo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Maloua Kassou, les trésors, je suis à Bukavu. Moi, je pense qu'on ne pouvait pas attendre plus de ce discours. À mon humble avis, c'est un discours traditionnel qui relate de réalisation du gouvernement et projette ainsi l'avenir. Quant aux élections, les institutions citées par le chef de l'État, ce sont les institutions qui sont habilitées à donner à la CENI le moyen de sa mission. Je pense que l'opposition ne doit pas dormir sur leur laurier et ne doit pas cesser de faire pression à ces institutions pour que les élections se tiennent à la date prévue.
Réaction.
C'est clair. Je crois que je vais profiter pour mettre une mise au point sur les éléments qui risquent de prêter confusion par rapport à l'intervention de Prof. Kabamba que je salue. Premièrement, nous sommes des démocrates. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour la démocratie. En ce qui concerne les questions électorales, il y a une démarcation nette entre le recensement et l'enrôlement des électeurs. Pendant la transition, mon parti, je suis signateur de l'accord global et inclusif. Nous avons voté une loi pendant la transition, j'étais parlementaire en 2003. Nous avons voté une loi portant identification des Congolais et enrôlement des Congolais pour les élections. Cette loi-là n'est pas à confondre. Et dans cette loi-là, qui a exigence d'avoir la carte d'électeur pour voter ou pour être candidat. Uniquement là-bas. Mais aucune loi n'exige qu'avant les élections, il faut connaître les nombres de tous les Congolais. Là, c'est un correctif au professeur Dr. Bob Kabamba. C'est un correctif et que c'est une mise au point claire. Aucune loi de la République n'exige
le recensement de tous les Congolais pour aller aux élections. La preuve est que nous avons eu des élections, il n'y a jamais eu de recensement. Par contre, l'enrôlement des électeurs est une condition parce que si ton nom ne figure pas dans le registre électoral, tu ne pourras pas voter. Donc, l'enrôlement des électeurs, tel que j'avais dit, vous pouvez avoir 80 millions de recensés. Parce qu'encore que le recensement, il faut voir, est-ce que c'est un recensement administratif, est-ce que c'est un recensement scientifique, c'est pas tous les recensements qui sont liés aux élections même. Donc, je dis, le recensement qu'il faut prendre, on peut avoir 80 millions de Congolais recensés, et lorsque les gens vont aller s'identifier pour se faire enrôler, pour être pour élu, pour les élections donc, on peut avoir, si 80 millions seulement, 20 millions, et 20 millions vont voter, et que 60 millions recensés ne vont pas voter, car ils refusent de se faire enrôler. Donc ici, le problème qu'il faut connaître ou comprendre, c'est que la majorité au pouvoir, le fait d'avoir mal géré, ils ne veulent pas deux élections. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le président Kabila a gagné, il dit qu'il a gagné les élections présidentielles et parlementaires. Qui a empêché qu'on organise les élections provinciales en 2012? Ils n'ont jamais expliqué aux Congolais. Aujourd'hui, ils ont tenté de renverser les éléments en organisant les élections locales, avec la pression en modifiant la constitution, avec la pression de l'opinion politique, de l'église catholique, des Congolais, l'opinion extérieure et nationale. Ils délaissent ça pour chercher les glissements. Les glissements, madame, les Congolais n'en veulent pas.
Merci.
Et il n'y aura pas de glissements.
Merci, Franck.
Ou alors ils vont tuer tous les Congolais.
Merci, Franck Dongo.
Avant ces glissements-là.
Merci, Franck Dongo.
Monsieur Kabila doit partir
plaît,
en 2016.
S'il vous plaît, merci, Franck. S'il vous plaît, c'est moi qui conduis, qui mène le débat. Je vais vous donner la parole, docteur.
Madame, juste placer un mot pour dire au collègue Franck Diongo que la loi électorale s'accompagne d'une annexe, c'est la loi de la répartition des sièges. On doit répartir les sièges en fonction de la population. Donc, si vous dites que le recensement n'a pas d'importance, alors là, il y a un petit problème.
J'avais dit clairement, docteur Molicho, j'avais dit clairement que le recensement, vous avez fait la répartition des sièges avec l'enrôlement seulement des électeurs.
Franck Diongo, s'il vous plaît.
Il faut chercher des prétextes.
S'il vous plaît, Franck Diongo, j'ai la parole. Franck Diongo, s'il vous plaît, j'ai la parole. Merci. Professeur Bob, s'il vous plaît, Franck Diongo. S'il vous plaît.
Monsieur.
Professeur Bob Kabamba, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Henri Bakoumania, je suis à Kinshasa. Le discours a été, à mon humble avis, très bien passé parce que le président de la République a abordé presque toutes les questions liées à la gestion de la République. Toutefois, de petites inquiétudes en rapport avec la position du chef de l'État sur son avenir politique après 2016. De deux, en rapport avec le cycle électoral, le président de la République est resté dans les mêmes orientations en demandant à l'Assemblée nationale et au gouvernement de doter la CENI des lois ainsi que des ressources pour son travail. Mais le chef de l'État n'a pas tenu compte des revendications de l'opposition et des exigences de la communauté internationale.
Réaction, professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup, madame. Mais il y a juste une précision que je dois apporter à l'honorable qui me taxe que par rapport à la loi. Mais j'invite vraiment, je l'invite, s'il vous plaît, à lire la loi organique sur la CENI, à son article 9, qui est sans ambiguïté et qui précise effectivement que le fichier électoral dans l'émission de la CENI doit être fait sur base de données démographiques. S'il vous plaît, je pense qu'il est important de dire la vérité à la population et non pas raconter ce qui n'est pas dans les textes de loi. Les textes de loi sont très clairs, il n'y a qu'à prendre l'article 9 de la loi sur la CENI et il verra très bien qu'il y a une obligation de pouvoir arriver à l'identification de la population pour pouvoir arriver à faire afficher électoral sur base des données démographiques, s'il vous plaît. Ça, c'est hyper important. Alors, il faut absolument que les gens, avant de commencer à affirmer des choses, il serait quand même mieux qu'ils lisent d'abord les textes de loi avant de pouvoir dire que il n'y a aucune base légale qui oblige la CENI à tenir compte d'un fichier qui est basé sur des données démographiques.
Merci, donc, professeur. En réponse à la... Par rapport à la question ou à la préoccupation de l'auditeur.
par rapport à la préoccupation de l'éditeur, je sais très bien que c'est une question qui est fondamentale liée à la suite par rapport à 2016. Je ne vais pas répondre à la place de l'État sur cette question. Donc, il aurait bien à lui-même de pouvoir se prononcer sur ça. Je pense que les textes sont très clairs à ce sujet. Et c'est que toute chose étant égale par ailleurs avec la Constitution de 2006, le président ne peut pas se représenter pour les élections de 2016. Je pense que là, il n'y a pas débat. Les choses sont très très claires. Donc ça veut dire que s'il y a respect des textes constitutionnels, s'il y a respect des textes de loi, et donc le chef d'État ne sera pas candidat en 2016 pour se représenter. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut être quand même d'accord que les textes sont clairs, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette base.
Alors il dit aussi, en ce qui concerne le processus électoral, le président a donné les mêmes orientations, au Parlement, donc doter la CENI des lois nécessaires pour son travail, au gouvernement de doter la CENI des ressources nécessaires, mais il n'a pas tenu compte des revendications de l'opposition et surtout des exigences de la communauté internationale à ce sujet. Ne voyez-vous pas que la cohésion nationale tant vantée et voulue par le chef de l'État ne sera que d'un temps relativement court?
Ben, je ne pense pas, moi, madame, parce qu'en fait, si on doit travailler, on doit travailler dans le cadre légal tel qu'il existe actuellement, aussi bien au Parlement qui régit toutes les lois qui régissent la RDC. De mon point de vue, je trouve que c'est pouvoir un peu faire injure au texte de loi tel qu'il existe en exigeant qu'il puisse se prononcer de manière très claire, alors que les textes sont clairs. Moi, je ne me pose pas de questions pour savoir s'il va se représenter ou ne va pas se représenter. Je ne pose pas des questions parce que les textes sont clairs. Il ne peut pas se présenter. Pour moi, les textes sont très clairs, donc je ne vois pas pourquoi je vais perdre mon temps à essayer de dire il va se présenter, alors que les textes sont clairs, la loi, elle est là, elle est dit claire, même par rapport à la communauté internationale, c'est tout à fait clair en disant, mais si vous pensez qu'il va se représenter, mais à ce moment-là, on quitte le cadre tel qu'il existe. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez autre chose et qui n'est pas légal. De mon point de vue, le texte tel qu'ils sont, les cadres légaux de la loi congolaise interdit au président de pouvoir se représenter en 2016.
Merci, professeur. Docteur Molich, on va revenir sur un autre extrait du président Joseph Kabila, toujours en rapport avec le processus électoral. Je prends juste un petit esprit. Il dit, nous sommes prêts à recevoir des avis, conseils, suggestions, mais jamais des injonctions. Est-ce une mise en garde que le chef de l'État fait aux partenaires de la RDC?
C'est pas une mise en garde, c'est juste dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Je pense que dans aucun État au monde, on serait disposé à recevoir des injonctions. Dans tous les États, on peut recevoir des conseils, des amis. Parce que ce sont des pays amis. Je crois que...
Mais vous pensez que les partenaires ne donnent pas leur avis par rapport au processus électoral, mais plutôt vous donnent des injonctions? Est-ce que c'est l'impression que vous avez?
Non, le problème, je pense, il est clair du point de vue du président de la République. Dans son discours, il a été clair en disant que le débat a pris la place du discours unique au niveau du pays. Et la preuve, c'est ça. Nous sommes aujourd'hui avec le collègue Franck Diongo. Il débat librement sur les questions d'intérêt national. Et avant de venir à ces débats, je suis sûr que le collègue Franck Diongo a rencontré des amis, partenaires et autres qui peuvent lui donner des idées. Mais quant à se substituer au collègue Diongo pour prendre position par rapport à une question d'intérêt national, ça devient des injonctions. Et c'est ça que le chef de l'État a attiré l'attention des partenaires, à ne pas se substituer aux nationaux s'il y a des questions qu'on... Passe les messages aux nationaux, quitte aux nationaux de débattre librement comme le collègue Franck Diongo est en train de le faire maintenant.
Mais on les voit dans tous les autres pays, non? Les partenaires, ils ont donnent quand même leur avis ouvertement. Est-ce qu'ils ont besoin de passer le message aux nationaux pour que les nationaux...
Vous parlez bien de donner leurs avis, et c'est ça que le président de la République a dit. Nous sommes disposés à écouter leurs avis, leurs conseils.
mais pas d'injonction.
Merci, docteur Moulisho. Franck Dungo, le chef de l'État. Je vais reprendre aussi un autre extrait du chef de l'État. Le chef de l'État s'est interrogé sur la tendance fort remarquée de certains compatriotes d'en appeler systématiquement à l'étranger pour régler les différends entre Congolais, comme si dans ce pays, nous n'avions pas collectivement assez de sagesse pour le faire nous-mêmes.
Très bien. Je voudrais continuer à mettre une mise au point sur l'intervention du prof Kabamba, Bob Kabamba. Je sais que chaque fois qu'il y a un enjeu juridique, le prof Bob Kabamba, depuis la rédaction de la Constitution, vient soutenir le président Kabila. C'est clair qu'il ne peut pas être recruté pour convaincre le Congrès d'accepter
là,
le recensement.
C'est un procès d'intention.
Laisse-moi terminer, madame. Il ne peut pas. Il habite en Belgique, il n'habite pas au Congo. Il ne peut pas venir donner des points de vue où les Congolais qui souffrent, contrairement.
Il est analyste, il a le droit de donner son point de vue.
Ça ne répond pas scientifiquement, ça ne tient pas. Le fichier électoral, je répète, on a fait des élections. Est-ce qu'il y a un recensement? Le fichier électoral, madame, est nécessaire. C'est le registre électoral. Pour voter, il faut être enrôlé. On n'a pas dit que pour voter, il faut connaître le nombre de tous les Congolais.
Vous l'avez déjà
dit. C'est bon.
Vous l'avez dit.
Mais ce n'est pas. Ça n'a pas de base légale, ce que je dis là.
Vous l'avez
il
déjà dit.
Il ne donne pas la démarcation entre l'enrôlement d'un électeur et les recensements pour connaître le nombre de Congolais. Et là, je salue la lucidité de Dr Moulisho qui a été claire.
Vous qui recourez aux étrangers pour régler les différends entre Congolais,
je
est-ce qu'il
n'y
a pas assez
madame,
de sagesse en
madame,
RDC pour régler
pas.
Ça entre Congolais?
Le président Kabila, avec tout le respect que je lui dois, il est très mal placé pour donner cette leçon-là. C'est par les mêmes étrangers. On a fait le dialogue inter-congolais. C'est les étrangers-là qui l'ont placé président au dialogue inter-congolais. On a tenu à l'extérieur. De deux, ce sont les étrangers qui ont permis à mettre fin à la guerre de 23. Ce sont les étrangers qui ont permis à ce qu'on signe l'accord de Lusaka. Sans la MONUSCO, on ne pouvait pas gagner la guerre. C'est ça que j'ai parlé, un discours qui a un accent nombriliste, faussement sur un ton souverainiste. C'est ça que j'avais dit cela. Non, ça donne l'apparence d'un nationaliste, mais en réalité, on est déconnecté de la réalité. Je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour le président de Kabila, mais je ne partage pas cette approche.
Merci,
on ne peut pas ignorer les étrangers, être nombriliste, ressentir un affirmement idéologique. Non.
Merci.
Le Congo doit jouer un rôle. Le Congo doit jouer un rôle international. Nous avons notre
merci,
statut international.
Merci, Monsieur Dongo. Professeur Bob Kabamba, un mot sur les discours du chef de l'État par rapport à l'ingérence des étrangers dans les problèmes qui
oui,
concernent les Congolais.
Merci beaucoup, madame. Il est facile. La critique, elle est facile lorsqu'on n'a pas d'arguments et on commence à inventer et à accuser les uns et les autres par rapport à des dispositions qui ne sont pas. J'invite sincèrement l'honorable à pouvoir bien lire les textes de loi qui régissent l'État. Ça ne veut pas dire lorsque l'on fait recours à des textes de loi que l'on est pour Kabila ou contre Kabila. Et ça, je trouve ça dommage par rapport à l'honorable d'arriver à sortir ce genre d'arguments lorsqu'il est à court d'arguments. Mais par rapport à la gérance au niveau international, on ne peut pas, en réponse à votre question, on ne peut pas, obliger la communauté internationale de ne pas intervenir, de ne pas interférer dans les affaires intérieures de la RDC. Dans tous les pays du monde, vous savez, vous suivez l'actualité au niveau international, vous avez dans beaucoup de pays, il y a une ingérence claire qui se fait de la communauté internationale par rapport à d'autres pays et de manière beaucoup plus affirmée et de manière beaucoup plus dure. Et je pense que c'est une question qui est liée au fait que le contexte international fait en sorte que tout le monde commence à s'intéresser par rapport à ce qui se passait avant. Le droit d'ingérence tel qu'il a été mis en exerce depuis le début des années 90, malheureusement, est devenu un droit international et de plus en plus la communauté internationale qui mise aussi bien même des pays comme la Grèce, et d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie, on a eu quand même aussi une ingérence claire de la part de la communauté internationale.
Alors en conclusion, professeur.
C'est un fait politique, c'est un fait de politique internationale et c'est ça que le monde est devenu.
Merci, professeur. On considère cela aussi comme votre conclusion. Docteur Didier Moulisho, vous allez aussi conclure.
Bon, moi je pense que le discours du chef de l'État sur l'état de la nation a permis aux Congolais de réaliser les progrès qui ont été réalisés depuis les derniers discours sur l'état de la nation. Quant à la question sur l'ingérence, moi je crois que le président de la République dans son discours a été clair en disant que les Congolais sont capables de régler le problème. Ingérence, c'est quand les Congolais ne sont plus capables de régler le problème. Est-ce que nous ne sommes pas capables? Est-ce qu'il y a une crise? C'est la question qui s'est posée. Y a-t-il une crise au point où nous ne soyons pas capables nous-mêmes de régler le problème pour qu'on attende des injonctions d'autres? C'était ça la question du président de la République. Je pense que pour ma part, le processus électoral est attendu de tous les vœux et que la CENI va proposer un calendrier électoral après que le Parlement lui ait donné un cadre légal.
Merci. Docteur Molicho, Franck Diongo, un mot en guise de conclusion.
Le mot de la fin, le président Kabila, en ne précisant pas clairement qui part en 2016, j'appelle le Congolais à rejeter, bien entendu, la proposition de glissement à travers l'ONU.
Merci Franck Diongo, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la préparer et la réaliser. Guy Maté, Alain Rung, Berry Luchaka, sous la supervision de Julien Niamouini. Merci à Sylvain Matundu qui était à la mise en onde au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookabi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.